Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Je reçois pour ce second podcast consacré aux défis de l'informatique et de la communication quantique, Romain Alléaume, enseignant-chercheur à Télécom Paris. Ses recherches sont centrées sur l'informatique et la cryptographie quantique et il collabore aujourd'hui au projet d'infrastructure européenne de communication quantique qui a pour but de sécuriser les données et les communications les plus sensibles. Alors aujourd'hui, nous abordons avec toi Romain les défis actuels des communications quantiques, l'hybridation entre cryptographie quantique et classique et le projet Quantum Secure Networks Partnership auquel tu participes activement. Et pour commencer, je voulais faire un point avec toi sur les grandes fonctions du quantique aujourd'hui, car à côté de l'informatique quantique auquel nous avons consacré le premier épisode de cette série, il y a d'autres technologies quantiques dont on parle moins, mais qui ne sont pas pour autant les moins avancées. Je veux parler de la cryptographie quantique, de la téléportation quantique, de la simulation quantique. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu où ça en est ?
Il y a trois grandes fonctions, c'est un peu comme ça qu'elles sont décrites aussi dans les programmes européens, dans la plupart des pays. Donc la fonction de calcul quantique, hein, dont on a parlé, d'ordinateur quantique ou de simulateur en fait. Donc le simulateur c'est une version simplifiée, disons, du calcul, où il n'y a pas de porte logique, mais on va juste faire de la simulation d'un système par un autre. Donc ça c'est pour le calcul. On en a beaucoup parlé, mais il y a d'autres possibilités d'avoir des avantages par rapport au classique en utilisant les technologies quantiques dans le domaine des communications. Donc envoyer de l'information quantique d'un point A à un point B, ça permet en fait de sécuriser les communications aussi entre A et B. Hein, donc ça c'est ça qu'on appelle la cryptographie quantique, qu'on travaille beaucoup dans mon équipe sur la cryptographie quantique, à la fois d'un point de vue expérimental et théorique. Et puis les communications quantiques, en fait, elles vont pas servir que à sécuriser, mais elles peuvent aussi connecter, bien sûr, connecter des calculateurs quantiques. Et en fait, il y a de plus en plus une interpénétration entre la notion de communication et de calcul et d'architecture, parce que donc la notion de réseau quantique, elle va utiliser à la fois du point de vue hardware, mais aussi du point de vue des idées théoriques, emprunter au domaine des communications quantiques, comment avoir de l'intrication à distance entre des systèmes, c'est ce qu'on appelle le problème des répéteurs quantiques ou de l'interconnexion quantique, de faire des grands réseaux, donc, et ces grands réseaux, après, ils peuvent connecter des ressources, qui sont donc des utilisateurs qui veulent sécuriser leur communication, mais aussi plus tard, et en fait ça commence déjà à émerger, des utilisateurs qui auront des calculateurs quantiques, qui seront assez localisés, ça va être des machines chères, typiquement, qui auront besoin d'interconnecter, soit pour les rendre disponibles, mais aussi éventuellement pour les rendre plus puissantes. En interconnectant des ordinateurs quantiques, potentiellement on peut faire un nouvel ordinateur quantique ou un calculateur qui aura une puissance plus que la somme de ses parties. Et enfin, dernière grand domaine d'application, qui est peut-être le plus mûr hein, aujourd'hui en termes aussi industriels, c'est ce qu'on appelle le quantum sensing ou métrologie quantique, c'est utiliser les techniques quantiques pour faire des mesures de précision. Donc ça, c'est pas un domaine sur lequel on travaille vraiment dans notre équipe, Curiosity, mais donc c'est un domaine où la France est bien placée, notamment avec des entreprises, pour par exemple qui utilisent des systèmes quantiques pour mesurer le temps, faire des horloges atomiques, mais aussi pour faire des mesures de précision de gravitométrie, donc du champ gravitationnel, ce qui permet par exemple de détecter du pétrole, mais aussi de détecter des séismes. Enfin, voilà.
Et où en est-on sur le sujet des systèmes de communication quantique et quels sont les défis de 2023 qui rejoignent peut-être aussi ceux de l'informatique quantique ?
On est dans ce moment d'accroissement technologique, de capacité technologique des technologies quantiques. Comme je l'ai dit, on commence vraiment à être sur la frontière de l'avantage computationnel. Mais cette frontière aussi, cet accroissement technologique, on le voit aussi donc sur les réseaux de communication quantique, sur lesquels on travaille beaucoup, notamment dans le cadre européen, avec un projet dont on parlera peut-être, qui s'appelle QSNP, Quantum Secure Network Partnership. Et aujourd'hui, un des défis importants, que ce soit pour le calcul ou pour les communications quantiques, c'est effectivement de passer à l'échelle. C'est de partir de systèmes qu'on a fabriqués en laboratoire, qu'on a pu démontrer donc pour les communications sur quelques dizaines de kilomètres, sur des liaisons point à point, sur des fibres. Pour les ordinateurs quantiques, c'est quelques qubits. Donc il y a cette notion de proof of concept, quelque part, qui ont été établis pour plusieurs applications phares des technologies quantiques. Donc, de passer de cette échelle du laboratoire à une échelle de système déployé, plus industrialisable. Et donc, pour ça, un élément essentiel, donc c'est le passage à l'échelle, scalability pour les technologies, qui va demander plusieurs choses, d'avoir une vision des technologies quantiques qui soit aussi orientée vers les coûts. Donc pour l'instant, on a essayé de faire des technologies, des démonstrations avec le matériel qu'on avait, éventuellement sans vraiment regarder le coût. On voulait juste faire quelque chose qui fonctionnait. Maintenant, si on veut passer à l'échelle, il va forcément contrôler ou minimiser le coût d'un élément pour pouvoir le reproduire à une grande échelle et de garder les propriétés, donc que ce soit pour l'ordinateur quantique, mais aussi donc pour les systèmes de communication quantique. Autre élément du passage à l'échelle, c'est de miniaturiser typiquement les systèmes. Donc ça va être vrai donc pour les composants de communication quantique. On s'oriente vers des systèmes de plus en plus intégrés. En termes de ce qu'on appelle la photonique intégrée, donc des circuits qui étaient avant des lasers, des détecteurs qui tenaient sur une table optique, on va les mettre sur une puce photonique, typiquement, qui va faire quelques millimètres, où toutes les fonctions optiques d'émission, de détection d'état quantique de la lumière vont être réalisées. Et le fait que ce soit miniaturisé, ça a des avantages sur la stabilité. Les systèmes vont être moins perturbés par l'environnement, bien sûr sur l'intégration, la possibilité ensuite de les mettre dans un système plus grand, et le fait de les dupliquer et d'en faire un grand nombre. Donc aussi la scalabilité.
Alors, tu nous parles de scalability, de miniaturisation, mais il y a aussi, j'imagine, un défi d'expérimentation à l'échelle, sur le terrain, en vrai.
Ces systèmes quantiques, essentiellement, étaient déployés en laboratoire, et donc il n'y avait pas trop de contraintes extérieures. Maintenant, il faut pouvoir les déployer en environnement réel, donc dans un monde où, en fait, ce qui domine, c'est des systèmes classiques, c'est l'informatique classique, c'est les communications classiques, les réseaux optiques qui sont aujourd'hui utilisés, avec des fibres. L'infrastructure de communication, c'est ce qui coûte le plus cher, donc on va pas la changer. Donc le défi, c'est d'utiliser l'infrastructure actuelle, où il y a déjà des communications classiques, et d'insérer, de multiplexer, donc d'intégrer des communications quantiques dans cette infrastructure. Et donc, on a vraiment ce défi-là aussi d'intégration classique quantique pour les communications quantiques, pour la cryptographie quantique. Et de la même façon qu'on a une problématique d'intégration, d'hybridation entre ordinateur classique et ordinateur quantique pour faire du calcul. Un ordinateur du futur, s'il utilise l'informatique quantique, il utilisera toujours de l'informatique classique. Et donc, il y a la problématique de comment les marier intelligemment pour obtenir plus avec du classique et du quantique que, à nouveau, la somme des deux.
Toi, Romain, tu travailles avec ton équipe sur le champ de la cryptographie quantique. Est-ce que dans ce domaine, il y a aussi une problématique d'hybridation ?
De façon un peu similaire, on peut dire que la cryptographie quantique, elle utilise à nouveau la superposition, le fait qu'un système quantique peut être dans des états superposés, et suivant la façon dont on le mesure, on va obtenir des résultats qui sont incompatibles. On peut obtenir certains résultats si on fait une mesure, certains autres résultats si on fait une autre mesure, mais on ne peut pas obtenir les deux informations par deux mesures différentes. Et donc, la façon de mesurer va influer sur l'information qu'on peut obtenir. Et en encodant de l'information quantique, comme ça, on peut l'envoyer, par exemple, encoder sur des photons, l'envoyer sur une fibre optique. Et si quelqu'un essaye d'espionner la communication, il va devoir faire des mesures. Et comme il ne peut pas obtenir toute l'information par ces mesures, il va forcément introduire des perturbations. Donc, et on peut faire une liaison en cryptographie quantique entre fuite d'information vers un espion qui fait des mesures et erreur qu'il va introduire. Donc on peut garantir que s'il n'y a pas trop d'erreurs, il n'y a pas trop de fuite d'information. Et au final, on va pouvoir fabriquer un secret, une clé parfaite, même s'il y a un attaquant sur la ligne. Parce qu'on peut borner, on peut mesurer s'il n'y a pas trop d'erreurs, et à ce moment-là, on peut borner le fait que l'information a fuité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire classiquement. Classiquement, dès lors que vous encodez de l'information sur un disque dur, sur une communication classique, vous pouvez toujours en faire une copie sans erreur. Et donc, il y a une vraie différence, qu'on appelle le non-clonage, c'est qu'un système quantique, vous ne pouvez pas le cloner sans erreur, vous ne pouvez pas le copier sans erreur, qui est lié à l'encodage quantique. Et ça, c'est le cœur de la cryptographie quantique, d'exploiter cette propriété-là pour faire des communications sécurisées, de différentes tâches, notamment échanger des clés secrètes.
Est-ce que tu vois d'autres différences entre cryptographie quantique et classique ?
On travaille beaucoup sur cette question dans mon équipe. Et c'est vrai que longtemps, la cryptographie quantique, elle s'est définie un peu en opposition à la cryptographie classique. La cryptographie classique, elle est partout dans le monde numérique, pour les paiements, la carte bancaire, le compte WhatsApp. On utilise tous les jours, sans arrêt, implicitement, des tâches mathématiques, des primitives, on appelle cryptographiques, qui vont permettre de chiffrer, d'authentifier nos communications. Et donc c'est très utile, la cryptographie classique, mais elle repose souvent sur le fait, ce qu'on appelle des conjectures, que certains problèmes mathématiques, à nouveau comme la factorisation par exemple, sont très difficiles, Et ces conjectures, elles peuvent éventuellement tomber. Donc on sait aujourd'hui que si on avait un ordinateur quantique, on saurait factoriser de façon efficace. Mais plus généralement, voilà, on n'est pas à l'abri que les systèmes cryptographiques utilisés aujourd'hui soient éventuellement vulnérables dans le futur. Et donc souvent, la cryptographie quantique, elle s'est définie, voilà, comme elle n'a pas cette vulnérabilité-là, elle est basée sur la théorie de l'information, sur la physique quantique, donc elle est a priori pas vulnérable dans le futur. Et donc, par opposition à la cryptographie computationnelle, les deux types de cryptographie se sont déployés, ont progressé, et la cryptographie quantique avait vocation à faire mieux que la cryptographie classique, une meilleure cryptographie, pas vulnérable dans le temps. Mais en même temps, la cryptographie quantique, elle a plein de défis. Hein. Elle doit utiliser des particules quantiques, des photons pour encoder l'information. Elle est limitée en distance. Elle implique d'utiliser du hardware spécifique. Donc, il y a aussi des contraintes. Et en fait, on se rend compte, si on regarde le but hein, de la cryptographie, qui est de proposer des services sécurisés, donc d'améliorer la sécurité du stockage des données, des communications, donc pour des applications qui sont donc cruciales aujourd'hui dans le monde numérique. Donc le but de la cryptographie, lui, il est indépendant du fait qu'on soit classique ou quantique. Et donc il y a pas vraiment de logique si on part de l'objectif à singulariser un type ou l'autre de cryptographie, mais plutôt à les combiner. Et donc c'est l'approche sur lequel on s'est engagé depuis quelques années, en fait, avec des aspects très théoriques et des aspects plus pratiques. Donc, plus théoriques, parce qu'on définit des nouveaux modèles de sécurité en cryptographie, dans lesquels il faut faire des preuves, il faut redéfinir un peu la cryptographie, mais ces modèles, ils vont mélanger des hypothèses computationnelles et du quantique. Et donc ça permet éventuellement de définir une nouvelle cryptographie quantique qui serait beaucoup plus performante, hein, donc qui permettrait d'être plus intégrable et un petit moins cher à utiliser et donc aussi plus performant, c'est-à-dire que le coût par bit d'information échangée serait bien moindre.
Alors, on entend beaucoup parler en ce moment de cryptographie post-quantique. Peux-tu nous expliquer, Romain, en quelques mots ce que c'est et peut-être nous dire ce que tu en penses ?
La cryptographie quantique, c'est des systèmes industriels aujourd'hui. La cryptographie post-quantique qui est à nouveau très développée, qui est en train d'être standardisée au niveau international pour remplacer la cryptographie à clé publique qui serait attaquée par un ordinateur quantique, donc celle qui est déployée aujourd'hui. Donc, quelque part, remplacer la cryptographie sur Internet pour l'échange de clés, notamment, et l'authentification. Donc ça, c'est un morceau colossal hein, de l'infrastructure numérique qui est en train d'être... qui évolue sous l'influence du calcul quantique. Et donc l'idée, c'est de regarder ces nouvelles primitives, ces nouvelles possibilités de faire la cryptographie et de voir comment on peut, en combinant les systèmes donc industriels ou proches de l'industrialisation dès aujourd'hui, fabriquer des systèmes opérationnels qui soient plus sûrs par combinaison de la cryptographie quantique et post-quantique. Donc il y a ces deux dimensions qui sont au cœur hein, d'une partie du projet donc Quantum Secure Network Partnership qui est financé par la Commission européenne.
La transition et la conclusion sont toutes trouvées. Est-ce que tu peux nous parler, pour terminer ce podcast, du projet Quantum Secure Networks Partnership et de l'implication de Télécom Paris ?
Donc effectivement, une direction majeure, c'est la combinaison de la cryptographie classique et la cryptographie quantique. Et pour ça, on collabore avec nos collègues des équipes de cryptographie, l'équipe C2, dirigée par le professeur Yeufan à Télécom Paris, mais aussi des collègues de l'École Polytechnique, Olivier Blasi, donc qui sont des spécialistes de la cryptographie classique post-quantique. Et donc, et nous, notre équipe Curiosity, donc qui est une équipe mixte entre l'INRIA et Télécom Paris, on apporte l'expertise en cryptographie quantique et en sécurité hardware pour avoir une vision commune sur les défis et les façons de combiner la cryptographie classique et quantique. Et on a par ailleurs une autre direction qui est plus expérimentale sur la réalisation expérimentale donc de communication quantique qu'on appelle cohérente, donc c'est des communications quantiques qui reposent sur des systèmes qui sont très proches des systèmes télécom. On collabore pour ça avec l'équipe de communication optique GTO de Télécom Paris et le professeur Yves Jaouen. Et donc ces systèmes donc qui sont déjà massivement déployés dans les télécoms, les systèmes cohérents, pour les cœurs de réseau, c'est les systèmes qui sont les plus efficaces pour transporter de l'information par photon. Donc, en termes énergétiques, c'est ceux qui permettent de transporter le plus d'informations, le plus grand débit d'informations dans les cœurs de réseau. Et il repose sur ce qu'on appelle des détections cohérentes. C'est-à-dire que la façon de détecter la lumière, elle est sensible à la phase de la lumière qu'on reçoit. Et pour ça, on fait interférer ce qu'on appelle un laser, c'est un oscillateur local, c'est ça, c'est le nom qu'on donne au laser en réception, avec le signal quantique, et on peut mesurer donc à la fois l'amplitude et la phase du signal quantique. C'est pour ça qu'on appelle ça des détections cohérentes. Donc les détections cohérentes, on peut les utiliser pour les communications classiques, et ça a beaucoup progressé dans les 20 dernières années, notamment parce qu'on peut faire du traitement du signal numérique, et donc mélanger des aspects numériques avec des aspects optiques pour améliorer beaucoup les fonctionnalités, la stabilité des systèmes, et leur vitesse aussi. Donc ça, c'est un acquis, en fait, sur lequel il y a beaucoup d'expertise à Télécom Paris, et finalement, en collaborant, enfin nous, ce qu'on fait maintenant, c'est des communications quantiques avec ce type d'idées, ce type de système, donc ça, c'est très nouveau, pour le coup, et on mélange des questions de traitement numérique du signal avec des questions de communication quantique et de cryptographie, donc pour imaginer les systèmes de communication quantique du futur, qui serait aussi très intégrable dans les systèmes télécoms actuels.
Merci de nous avoir suivis. Nous espérons qu'après ce second épisode, l'informatique, la communication et la cryptographie quantique n'auront plus de secrets pour vous. Mais dans le cas contraire, pas d'inquiétude, ce sujet fera l'objet de prochains quarts d'heure du chercheur.